Bonjour et bienvenue à l'épisode 25 du podcast franco-allemand de Sigrid Brinkmann. En juin, l'écrivain sénégalais Felwine Sarr est venu en Allemagne pour des débats-rencontres autour de la traduction de son roman « Les lieux qu'habitent mes rêves ». J'avais la chance de modérer un entretien avec lui. L'Institut français et la Grande Bibliothèque municipale de Stuttgart avaient invité Felwine Sarr. Économiste, auteur de théâtre et de prose, musicien et éditeur à la fois, Felwine Sarr est un personnage éblouissant. Avec l'historien et politologue camerounais Achille Mbembe, il a lancé en 2016 à Dakar les Ateliers de la pensée afin d'encourager les jeunes Africains et Africaines à développer de nouvelles perspectives pour le continent. L'essai Afrotopia de Sarr, paru la même année, décrit des modèles économiques alternatifs et des formes de vie communautaires. Ce petit livre, ainsi que le rapport rédigé en collaboration avec l'historienne de l'art Bénédicte Savoie sur les collections d'art des anciennes colonies africaines dans les musées français, ont fait connaître Sarr au niveau international. Après tout, Felwine Sarr écrit surtout de la littérature. Depuis 2009, il a publié des poèmes et en 2022, son deuxième roman, « Les lieux qu'habitent mes rêves ». L'action se déroule en Europe et au Sénégal. Sarr parle de la tension fondamentale entre la sédentarité et un nomadisme urbain et international. Il raconte l'affinité entre deux frères, un malheur tragique et une histoire d'amour impossible. Le roman ressemble à un rêve éveillé dans lequel apparaît, inspiré par la philosophie bergsonienne, toute la richesse d'un monde spirituel parallèle. Felwine Sarr était professeur d'économie à Dakar pendant 12 ans. Depuis 2020, il enseigne la philosophie africaine à la Duke University of North Carolina. Je voulais savoir si pour lui, l'écriture littéraire est toujours allée de pair avec la recherche universitaire et l'enseignement.
En fait, je veux remettre les choses dans le bon ordre. C'est l'écriture littéraire qui est d'abord la première. J'ai écrit trois textes littéraires avant d'écrire Afrotopia. Et quand Afrotopia est arrivé, Afrotopia a tout effacé. Et ma vie a commencé à Afrotopia, alors que ce n'était pas le cas. Donc j'écris Daïj, Méditation africaine, 105 rue Carnot, qui sont des textes littéraires. Et je ne voulais pas écrire d'essais académiques, je voulais juste écrire des textes littéraires. Parce que justement, je ne voulais pas être enfermé dans la figure de l'essayiste. Parce que je sais que les gens aiment bien mettre les gens dans les cases, quoi. Et finalement, j'ai écrit Afrotopia par nécessité. Et ensuite, il y a eu un petit essai, Habiter le monde. Et il y a eu le rapport sur la restitution avec Bénédicte de Savoie. Et je pense que le couple Afrotopia et le rapport m'a installé dans la figure de l'essayiste. Et donc, c'est ce qui explique qu'après ces deux textes, je suis revenu à l'écriture littéraire en écrivant une pièce de théâtre, un recueil de poésie, un livre de voyage et ce roman-là. Donc, je pense que l'écriture littéraire, elle est beaucoup plus importante que le travail d'essayiste. Mais sauf que c'est le travail d'essayiste qui a été plus connu mondialement.
Le titre du roman, qui est très poétique, suggère qu'il s'agit de voyages oniriques, de mouvements intérieurs, de lieux qui apparaissent soudainement dans nos rêves. Vous avez un jour évoqué l'existence de ce que vous appelez les voyages en profondeur. Et j'aimerais savoir ce que vous entendez par là exactement.
Alors, je vais peut-être revenir sur le titre. En fait, l'idée que j'avais, c'est de faire un roman topographique et un roman qui raconte des lieux. Et c'est un roman qui raconte des lieux, mais ces lieux sont des lieux où mes rêves viennent habiter. Ce ne sont pas les lieux qui habitent mes rêves, c'est mes rêves qui habitent un certain nombre de lieux. Et donc, du coup, dans ces lieux-là, il y a des lieux qui sont des lieux physiques, bien évidemment. Il y a des lieux qui sont des lieux oniriques, il y a des lieux qui sont des lieux imaginaires, et les personnages et les actions qui se déroulent dans le roman voyagent entre ces différents lieux. Donc j'ai voulu articuler comme la question des espaces, dans la question topographique, et la question du justement quoi, la question des temporalités et la question des lieux où des rêves habitent, où des imaginaires, des aspirations, des élans habitent quoi. Et j'ai voulu articuler ces différents plans de la réalité, ces différents niveaux de la réalité. C'est pour ça qu'il y a des pays, je dirais physiques, normaux, il y a des pays sans fin, et les personnages transcendent les limites des réalités ou des géographies assignées. Donc c'était vraiment un désir d'ouvrir l'espace, dans l'espace de l'écriture.
Le roman se déroule dans un pays qui n'est d'abord que très vaguement esquissé, avec des montagnes, des lacs. C'est un pays neutre, donc on comprend assez vite qu'il s'agit de la Suisse. Il y a quelques noms de lieux qui sont directement cités, Orléans, la ville où vous étiez étudiant, Varsovie, des lieux au Sénégal, comme Sinia par exemple. Et comme j'avais déjà dit que j'avais lu votre livre « La saveur des derniers mètres » où on voit que très bien vous avez voyagé, vous citez des lieux comme Lisbonne que vous avez exploré, Mexico, Istanbul, le Caire et puis de nombreuses villes. Mais la Varsovie n'est pas mentionnée. Je voudrais savoir si vous avez rattrapé en quelque sorte un retard.
Si tu permets, ou je ne sais pas si tu l'as prévu, de parler des deux frères, des lieux où ils habitent.
Si, je vais parler des deux frères juste après.
Okay. Ce qui est juste, c'est que les lieux principaux, c'est quand même le pays CRR, là où habite Fodé, et la France et la Pologne, là où habitent Bouhel et Olga. C'est les principaux lieux. Après, il y a des lieux intermédiaires, des lieux finaux. La Suisse, c'est le lieu de la fin. Donc le roman, il commence par la fin. Donc le texte est monté à l'envers. Mais c'est un lieu qui arrive vraiment à la fin du texte. Et si je dois vraiment remettre en scène les espaces qui sont des espaces que je mets en dialogue, c'est le pays d'où viennent les deux frères, qui est le Sénégal, qui est le pays CRR. L'un reste, l'autre s'en va. Et l'Europe de l'Ouest, et surtout l'Europe de l'Est, qu'il découvre après, vu sa relation avec Olga et où se passeront des choses importantes. Et donc du coup, j'ai voulu décaler le face-à-face entre le Sénégal et la France en invitant en troisième lieu, qui est Varsovie et la Pologne. Et donc, du coup, c'était une sorte de déplacement. C'était une sorte de déplacement et de sortie du face-à-face. Et de ramener une Europe que l'on ne connaît pas bien. On connaît bien l'Europe occidentale, mais on a très peu de relations avec l'Europe de l'Est. Et faire en sorte que mes deux principaux personnages se retrouvent dans un tiers lieu, qui est l'Europe de l'Est. Et mettre en dialogue aussi ces cultures, et la culture chrétienne de cette ville-là, et les cultures serrères, spirituelles, donc du pays serrère. Donc c'est ce qui explique le fait que je me sois déplacé dans le roman à Varsovie.
Au centre sont les jumeaux Bouhel et Fodé, l'étudiante polonaise Olga qui tombe amoureuse de Bouhel, Bouhel qui est amoureux de Olga. Les deux sont boursiers à Orléans. Il y a le frère de Olga, Vladimir, qui vit encore chez les parents parce qu'il y a un problème psychique. Et puis il y a un moine avec lequel Bouhel, qui s'est réfugié, en Suisse, qui est entré dans une discussion, une conversation très profonde sur la foi et la religion. Donc il y a Fodé qui quitterait jamais le Sénégal. Il a son métier, il est marié à une consultante, il est entrepreneur, il est fortement enraciné dans sa communauté. Et puis il y a Bouhel qui étudie la sémiologie en France. Il travaille dans des bars, il travaille dans des plantations pour pouvoir se payer un ticket une fois par an aller visiter sa mère et son frère. Donc les frères sont très très profonds. Il y a un qui est un nomade urbain. Il y a l'autre qui reste sur place. Et qu'est-ce qui les unit?
En fait, le roman, c'est un roman sur la question de la fraternité. Et donc j'ai voulu mettre en scène deux frères jumeaux qui ont des chemins de vie différents. Ils sont nés dans le même pays, au Sénégal, jusqu'à l'âge de 20 ans. L'un décide de rester, mais la raison pour laquelle il reste, elle est importante. Il est dans une relation de transmission avec un maître spirituel qui va lui transmettre les secrets pour devenir le maître des initiations. Et il doit prendre en charge, il doit protéger la communauté initiatique. Donc il a accès au savoir ancien et au savoir de la cosmologie spirituelle du monde serrère. Donc il reste pour devenir un maître spirituel. Donc il hérite du savoir de la tradition. L'autre décide d'aller faire des études de sémiologie et de littérature en France et décide d'être le disciple de sa propre compréhension des choses au début. Il ne veut pas être dans une tradition donnée, il veut explorer le monde. Et ce qui m'a intéressé, c'est déjà la question de l'identité et de l'altérité. C'est des jumeaux ils sont unis par la même langue, ils sont nés de la même mère, ils ont la même culture au départ. Mais comment, à travers leur chemin de vie, ils vont être dans des processus d'auto-altérisation, de transformation. Et qu'est-ce que la rencontre apporte à sa propre identité? Et qu'est-ce que aussi le fait de creuser dans la tradition pour l'autre frère jumeau apporte comme processus de transformation? Et sur leur lien, bien évidemment, j'ai voulu en faire des frères qui sont fraternels. Parce que généralement, la fraternité, on peut avoir des frères qui sont des frères ennemis, qui ne s'aiment pas. Et c'est pas parce qu'il y a un lien biologique que l'amour est une donnée fondamentale. Et d'ailleurs, dans la Bible, le premier couple de frères, c'est Caïn qui tue Abel, dès la Genèse. Donc il y a un fratricide. Et donc c'est une fraternité qui est contrariée. Il y a aussi des couples, Rachel et Léa, dans la Bible, qui ne s'aiment pas. Donc j'ai voulu mettre en scène dans un roman la possibilité d'un vrai amour entre des couples fraternels. Donc il y a les frères jumeaux, une part, mais il y a aussi les couples de transmission. Il y a le vieux Ngoff et Fodé, qui sont dans une relation de transmission. Outre-tombe, une fois que Ngoff est mort, il continue à le transmettre. Il y a frère Tim, que vous avez évoqué, et Bouhel, parce que Bouhel, il va lui arriver un drame. Et quand il va essayer de se reconstruire et de recommencer la vie, il va aller dans un cloître, il rencontre un moine avec qui il rentre en discussion. Et ce moine va se révéler être un compagnon ou même un maître spirituel. Et puis il y a Olga et Vladimir qui ont une relation très fusionnelle et on verra comment ça évolue. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc j'ai voulu mettre aussi en scène des couples de fraternité et sororité et des couples de transmission, mais qui sont tous dans une relation d'amour. Et la question de l'amour, elle traverse le roman puisque Olga et Bouhès sont dans une relation d'amour qui deviendra impossible ou possible, on verra dans le roman. Mais aussi, il y a d'autres variétés, d'autres types d'amour. Les amours fraternels, les sororités et les chemins de compagnonnage entre les anciens et les morts qui sont dans un autre lieu, qui est le pays sans fin, et qu'à partir de ce lieu, qui veille sur ceux qui sont en bas. Donc, il y a aussi plusieurs plans et plusieurs lieux qui mettent en relation différents types donc, d'individus.
Dans votre narration, vous parlez de mouvements intérieurs et extérieurs. Bouhel reste sur place, Fodé aussi, et les plus grands mouvements se passent quand on reste sur place. Donc Bouhel, il a choisi un isolement, il tente de faire le bilan de sa vie et d'entamer un processus de mue. Il dit qu'il a besoin de se débarrasser de vieilles peaux. Il est initié, Fodé, au savoir mythique par un vieux maître, comme vous l'avez dit. Et je voudrais savoir quel rôle est-ce que ce savoir mystique joue-t-il encore au Sénégal?
Je pense que les sociétés africaines, sénégalaises aussi, sont des sociétés qui sont à la croisée de plusieurs bibliothèques. Il y a les cultures négro-africaines et leur spiritualité et leur savoir et leurs épistémologies. Il y a les savoirs occidentaux ou dits modernes qui sont arrivés avec le fait colonial. Et je pense qu'il y a aussi toute la culture, en tout cas au Sénégal, de l'islam. Et donc, du coup, les individus sont à la croisée de ces trois bibliothèques-là. Bien évidemment, dans l'école officielle, les savoirs traditionnels africains ne sont pas enseignés. Ils sont enseignés dans des cérémonies d'initiation, dans des cadres que les sociétés initiatiques avaient mis en place, qui existent encore, ils sont moins vivants qu'avant. Mais on les retrouve dans le pays Serer, dans le pays Djola, et dans les régions qui sont les moins islamisées. Parce qu'il y a des, on va dire, il y a des concurrences épistémologiques. Mais je pense que, fondamentalement, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs rapports au savoir. Il y a les rapports que je dirais officiels, classiques, dans des écoles, dans les universités. Mais il y a aussi la conscience que la société, que les sociétés, ont des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des ressources épistémiques spirituelles que les gens vont aller chercher lorsqu'ils sont dans des difficultés ou dans des périodes de troubles. Et donc, du coup, j'ai voulu mettre en scène ces savoirs-là qui sont anciens mais qui sont aussi actuels, qui existent dans la topographie des groupes sociaux et qui existent à travers aussi des dispositifs de transmission qui sont mis en place, qui sont les parcours initiatiques et je dirais les récits initiatiques ou les confréries initiatiques.
Se connecter avec tout ce qui est, je pense que c'est une des puissances de la pensée africaine. Si je dis pensée africaine, c'est aussi un mode de vie. Et vous n'avez pas donné d'explication, ce qui me plaît énormément, parce qu'il ne s'agit pas d'expliquer, de légitimer une pensée qui se vit, comme vous l'avez décrite. Donc, est-ce que c'est un message sous-entendu de nous confronter dans une manière la plus généreuse avec cette pensée qui paraît étrange aux Occidentaux?
Dans le roman, il y a une tentative de dialogue que j'essaie de mettre en place entre le pays serrère et les savoirs du pays serrère et la mystique, je dirais, chrétienne. Frère Tim, le monastère, le cloître. Et j'essaie de les mettre en dialogue à travers Fodé, Ulga et Bouhel. Bien évidemment, les imaginaires spirituels du monde serrère, on aurait pu avoir une démarche d'ethnologue. Je n'ai pas voulu faire mon ethnologue. Je les ai mis dans le roman de manière naturelle et simple, en invitant le lecteur à entrer dans ces espaces-là, qui sont des espaces vastes, mais justement à ne pas essayer de démontrer ou de prouver quoi que ce soit. C'est des savoirs qu'ils ont, qui appartiennent à leur culture, avec l'idée de dire que quand moi, on m'invite à entrer dans l'univers d'un roman russe, ou chez Balzac, ou dans d'autres univers, je fais un effort d'y entrer et d'y croire, et de me laisser emmener dans cet espace de sens et de signification. Donc du coup, il y avait effectivement quoi, le roman est un lieu qui est intéressant parce qu'on peut justement ne pas être dans l'argument et le contre-argument et juste déposer là un monde, un univers de manière vraisemblable et laisser la lectrice ou le lecteur faire son voyage à l'intérieur. Lorsque dans la tradition hébraïque ou juive, on raconte que le prophète Moïse a fondu la mer Rouge et que le peuple d'Israël a traversé et que le peuple hébreu a été sauvé de l'oppression égyptienne, personne ne rigole et personne ne prend ça comme une fable. Il y a une sorte de mystère, de respect. Lorsqu'on raconte dans d'autres espaces spirituels des choses extraordinaires, la naissance virginale de Jésus, etc., etc., c'est pris au sérieux par des millions d'individus. Donc je ne vois pas vraiment pourquoi les cosmologies africaines ne seraient pas prises au sérieux au même titre que les cosmologies qui viennent du monde entier et qui, des fois, ouvrent à des espaces qui dépassent les limites ou les lois du temps et de l'espace et qui ouvrent à des possibilités qui vont au-delà de notre entendement qui est limité. Et puis avec l'idée de dire qu'on ne peut pas toujours ramener les choses à sa mesure. Nous ne sommes pas à la mesure de toutes choses. Il y a des possibilités de l'esprit humain qui dépasse les connaissances que nous avons ou la manière dont nous avons à concevoir le monde. Et le roman est un espace qui autorise ça, qui autorise justement quoi, de mettre en scène dans ces réalités-là, quoi, dans l'espace du texte fictionnel, qui cherche à atteindre une vérité qui est plus haute que la vérité de l'anecdote et qui justement quoi, qui est dans un espace de cheminement, d'expérience, d'empathie et pas un espace de preuve ou de thèse. Et c'est ça que le roman offre, quoi, être en empathie avec les personnages et raisonner avec eux.
À la fin du roman, Bouhel fait un rêve. Il voit le prêtre, frère Tim, assis aux abords de ce qui ressemblait à une grande fosse. Ils étaient sereins et leur visage baigné dans une paix que rien ne semblait pouvoir troubler. À un moment, ils se levèrent et se mirent en mouvement. Frère Tim fermait la marche. C'était comme si Engolf lui faisait faire le tour d'un domaine sans bornes. Leurs silhouettes s'éloignent et puis ils disparaissent. Je trouve que c'est presque un souhait. Est-ce un souhait?
Oui, à la fin, que dans le pays sans fin, où il y a les ancêtres serrères, les bienheureux qui ont bien vécu, accompli leur mission de vie, et deviennent des esprits qui veillent sur ceux qui sont en bas.
Ils deviennent
des esprits, ouais. Ouais. Ben, ici, l'idée, c'est que peut-être dans ce lieu-là aussi, que frère Tim les retrouvera là-bas, quoi. Et que si c'est vraiment un pays sans fin, bon, c'est un pays qui n'appartient à personne, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de borne, et que ben, les gens qui ont cheminé puissent se retrouver dans ce pays-là, quoi, et être en dialogue. Et le rêve revient, parce que Bouhel a eu des rêves qu'il n'a pas su décrypter. À un moment donné, les anciens lui ont envoyé des messages par le canal du rêve. Il ne les a pas entendus à l'époque, puisqu'il n'était pas attentif aux voix intérieures. Et là, c'est comme s'il retrouvait le canal de la voix intérieure et de la voix profonde. Et dans le rêve, justement, quoi, il ouvre des paysages et des lieux où Frère Tim, qui a été celui qui l'a aidé à guérir, rencontre Levion Goff.
J'avais dit que j'ai lu votre roman comme une sorte de rêve éveillé, lucide, inspiré, comment dire, par la philosophie de la vie bergsonienne, qui se démarque de la pensée positiviste. Et en fin de compte, c'est un grand louange de la poésie. J'avais dit que j'avais commencé à écouter de la musique de Vasis Thiop, qui, je crois, vit à Paris, c'est ça? Mais vous l'avez fait venir en 2020, en décembre, pour faire de la musique ensemble, pour donner un concert. Et tout court, la musique de Vasis Thiop, qu'est-ce qu'elle vous importe?
En fait, il fait partie des gens que j'écoute presque tout le temps, parce que j'ai des maîtres en littérature, j'ai aussi des maîtres en écoute. Et je trouve qu'il réussit à mêler un univers onirique, qui est poétique, avec une langue qui est énigmatique. Il a beaucoup de quatrains en wolof, où il code des énigmes de poésie, de philosophie et de sagesse dans l'espace de la chanson, et qui réussit à voyager à travers plusieurs univers. Donc il a reçu une synthèse, une vraie synthèse musicale. Mais à l'intérieur de cette synthèse musicale, il a vraiment un geste poético-philosophique dans l'esprit de la chanson. Donc du coup, ces chansons sont inlassables, c'est-à-dire que tu peux les écouter N fois sans se lasser. Et donc à chaque fois, l'univers qu'il crée, qu'il pose, l'univers qu'il impose, ben, à chaque fois qu'on le réécoute, l'univers est juste. On écoute 20 fois l'univers qu'il propose, l'univers est 20 fois juste.
J'avais dit que jouer de la musique, ça demande des compétences, mais il s'agit surtout de faire. Et non pas comme dans la littérature, comme dans la philosophie ou dans l'enseignement, de transmettre. Et je pense que c'est libérateur et que c'est ça ce qui vous lie ou vous rapproche, enfin, de la musique, non?
En fait, j'ai commencé à jouer de la musique, j'étais adolescent, donc depuis très adolescent, quoi, je jouais du piano, de la guitare, et j'écrivais des textes. Mes premiers débuts en écriture, c'était des écritures de jeunesse, quoi, où je tentais d'écrire de la poésie de jeunesse à l'époque, des aphorismes et des chansons. Et je pense que ma première écriture a été dans la musique. J'ai publié des albums avant de publier des livres. Et je pense que c'est un espace de transmission, comme le savoir. Dans une université, on transmet un savoir qui est autorisé, articulé et canonisé. Dans un roman, on transmet une expérience existentielle à travers l'espace du langage et du mot, quoi. Dans la musique, on transmet des émotions, on transmet des impressions, on transmet des états d'âme, on transmet des vibrations, mais on transmet aussi, on est dans une relation à la sensibilité de l'autre. Et je pense que tous ces gestes-là, enseigner, jouer de la musique, écrire, relèvent du désir d'entrer en relation et d'être dans un espace de transmission. J'ai reçu, j'ai transformé, et je redonne, et je reçois. Tu vois. Et ce qui est intéressant dans la musique ou dans un concert, c'est aussi un art de la participation. Le roman, c'est une transmission, c'est un dialogue silencieux. Quelqu'un peut prendre le livre, dialoguer avec lui dans son coin, dans un train, et vous n'êtes pas là. Alors que le concert de musique, on est tous là, et on participe. On participe à l'élaboration de la vibration. Donc c'est un art de la participation. Et c'est ce que je trouve intéressant. En plus, c'est un art de la coprésence du temps et de l'espace. Sauf si vous écoutez un disque plus tard. Mais le concert, vous êtes dans le même lieu et vous partagez le temps et l'espace. Donc il y a une concomitance des deux. Il y a une coprésence des deux. Mais fondamentalement, je les prends tous pour des gestes d'entrée en relation avec autrui. Des gestes d'aller vers autrui. Avec quelque chose que l'on a creusé, que l'on a affiné, que l'on a soigné pour entrer en relation. Si je rentre en relation avec vous avec une chanson, c'est que j'ai pris du temps, j'ai affiné la chanson, j'ai cherché à entrer de la plus belle des manières en relation avec vous.
J'avais mentionné que le texte habitait le monde, mais on peut habiter le monde poétiquement, par la poésie, et trouver son lieu. Et puisqu'il est question de lieu et de cet univers latéral aussi que vous explorez, est-ce qu'il y a un lieu auquel vous retournez dans vos rêves ou que vos rêves habitent?
Les livres sont un monde, sont des mondes, et on peut vraiment habiter le monde des livres comme on habite la ville de Stuttgart ou une ville au Sénégal. Donc, parmi les mondes dans lesquels j'habite, il y a les lieux physiques, mais il y a les mondes des livres. J'y habite aussi, quoi. J'y habite réellement. Et j'ai mes compagnons, j'ai beaucoup de compagnons avec qui je dialogue de manière quasi quotidienne. Certains se sont absentés du temps phénoménal, mais c'est des gens avec qui je discute, avec qui j'échange régulièrement, etc., etc. Donc ça, ce sont des lieux auxquels je retourne tout le temps. Il y a l'île dans laquelle je suis né, qui est pour moi un point d'ancrage, l'île de Nyodior, dans les îles du Saloum. J'y retourne aussi régulièrement. Mais je pense que ce sont les deux lieux où je retourne. Là où j'ai vu le jour, une petite île du Saloum, et le monde des livres que je fréquente et dans lequel j'habite. Il y a même des amis qui disent que chez moi, à Dakar, que je suis hébergé par mes livres. Que c'est mes livres qui m'hébergent, quoi. Que j'habite chez mes livres.
Et c'était le 25e numéro de Litteramour consacré à Felwyn Sarr, enregistré à la Bibliothèque municipale de Stuttgart. Au prochain épisode, vous entendrez un entretien avec la scénariste et narratrice Anne Berest. Son livre autobiographique, La carte postale, a été un best-seller en France en 2021. Entre-temps, ce roman, également intéressant sur le plan historico-politique, est lu au lycée. Et les enseignantes ne cessent d'inviter Anne Berest. Je suis Sigrid Brinkmann, bien à vous et à la prochaine.